Pour aujourd'hui, je vous ai proposé plusieurs passages à étudier de façon à avancer un peu plus vite, hein, par petits sauts de puce, pourrait-on dire, dans l'œuvre de Flaubert, en abandonnant bien entendu des parties qui peuvent être jugées comme extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, par exemple, nous allons passer avant et après la fête de l'Alhambra, hein, cette sorte de folie sur les Champs-Élysées, bon, qui prendrait elle-même aussi plusieurs heures, hein, de travail. Bon, j'essaierai de faire un autre jour une scène de fête pour montrer un peu comment Flaubert le construit. Avant de commencer, peut-être des questions, si vous en avez, sur la semaine dernière ou avant, vocabulaire ou aventure d'un mot, si vous avez ensuite la curiosité de retourner voir sur le site intratexte. Vous en voulez plusieurs? Une seule, deux? Si vous retournez sur le site intratexte pour voir ces occurrences, je dirais in vivo, c'est-à-dire dynamiques, avec la possibilité de cliquer, je crois qu'il y en a deux. Voilà, alors des questions?
C'est une question un peu en dehors le thème central, mais à monsieur d'Ambreuse était
Allez-y.
Il y a une expression, monsieur dans le été, comme la bavure, comme en Auvergne.
Auvergne, oui. Page
39. Je suis curieux de savoir si les Auvergnats à Paris, au milieu du
19e siècle, oui,
avaient déjà une réputation d'être la bavure. Je voudrais savoir si l'Auvergnat en ce temps-là était déjà identifié quelque genre de profession métier.
Oui, là c'est une question plutôt de sociologie régionale et relative au 19e siècle. Je crois vous avoir dit, donc c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, que en effet cette expression existe parce que elle a été utilisée, elle a été popularisée à une certaine époque. Et il semble que ce soit plutôt au 19e siècle. Donc avant le 19e siècle, il n'y a peut-être pas cette image des Auvergnats. Donc là, pour dater. Ensuite, sur la réalité de la chose, il y a parfois une certaine distance entre l'image et la réalité. Mais je vous disais l'autre jour que jusqu'à que dans les années 1960 ou 70 du XXe siècle, il y avait dans Paris, puisque j'étais à Paris, donc je ne peux pas parler d'une autre ville, il y avait des commerces que l'on appelait familièrement bougna. Et le bougna, c'est une déformation de l'auvergnat. Et le commerce de bougna, donc qui s'écrivait B-O-U-G-N-A-T, avec A-T comme l'auvergnat, était un commerce de, le plus souvent, de bois et charbon. Bois et charbon. Et comme ce commerce restait généralement ouvert assez tard, puisque il arrivait un peu qu'à n'importe quelle heure, hein, des gens puissent avoir besoin de bois ou de charbon pour se chauffer, ce commerce vendait également un certain nombre d'autres choses, devenant une sorte un peu de combini, longtemps avant l'heure, évidemment, disons de commerce ouvert relativement tard, relativement tôt, et offrant un certain nombre de services. Et alors, je ne sais pas comment ça se passait exactement. Est-ce que c'était une sorte de droit acheté ou payé régulièrement à la mairie ou à la préfecture, comme c'est tout à fait possible, pour avoir le droit de faire ce commerce, un peu comme on achetait une charge, hein, on disait, bon. Et pour les commerces, louer ou acheter un droit de commerce ou de faire d'avoir un magasin. À cette image de bougna, donc d'auvergnat, était attachée en effet l'idée de quelqu'un qui travaille beaucoup, tard, sans compter ses heures. Il est possible également qu'au XIXe siècle, le sens soit attaché à un travail, plutôt un travail de force, de porter des choses, de travailler dans des chantiers. Et on revient à la petite explication que je donnais il y a deux semaines, c'est que les personnes de cette région avaient assez peu de travail dans leur région, et le développement économique faisant qu'on avait besoin de main-d'œuvre dans des villes, on allait chercher des ouvriers dans des régions où il n'y avait pas beaucoup d'industrie ou d'industrialisation. Donc, c'est une possibilité. Ensuite, pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas vous dire de bêtises, il faudrait entrer plus en détail dans la sociologie. Mais en tout cas, l'expression existe, le sens est connu jusqu'à il y a assez peu de temps. Voilà. Quelqu'un d'autre connaissait ce terme de bougna?
Il y a seulement les patrons de café, les patrons de café sont originaires d'Auvergne.
Ah oui? Oui, aussi, oui. Oui. Et alors, il faudrait savoir comment ça a commencé, quoi. Est-ce qu'ils ont été obligés de quitter leur lieu de naissance parce qu'il n'y avait pas de travail? Aujourd'hui, le phénomène est très courant et on a l'impression qu'il est nouveau. Hein, des gens qui partent de la campagne pour travailler à la ville ou qui partent d'un pays pour aller dans un autre pays, mais ça n'est pas du tout nouveau. Le phénomène est vraiment ancien déjà. D'autres remarques ou questions? Voilà, si je trouve quelques autres détails, je vous dirai la prochaine fois. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé, on commence par les pages 83 à 86, et je vous indique, avant de l'oublier, pour la semaine prochaine, page 274, 288. Voilà. Alors la semaine prochaine, donc, je prendrai un seul morceau. Il s'agit de l'épisode du duel. entre Frédéric et M. de Sizy. Et ce sera également l'occasion de faire un certain nombre de portraits de personnages qui, au milieu du roman à peu près, sont relativement importants, avec des différences bien sûr très grandes. Au début, hein, où nous sommes encore maintenant, nous ne savons pas si tout le personnel est déjà sorti de la manche de Flaubert. Donc petit à petit, les personnages entrent, et on va le voir d'ailleurs tout de suite, il y a parfois une stratégie de Flaubert pour ne pas dévoiler tout de suite son jeu. Et en effet, la semaine prochaine, donc, je ferai quelques portraits supplémentaires. Alors, page 83, nous sommes en 1842, Frédéric est revenu à Paris, et qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est ça. Il ennuie beaucoup son ami Deslauriers avec cette Madame Arnoux. Évidemment, ça va continuer pendant très longtemps. Hein. Et Deslauriers est quand même un peu inquiet pour son ami. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut sortir d'une telle relation où, visiblement, la situation est bloquée? Et à la page 83, comme certainement de très nombreuses fois, ou peut-être tous les jours, comme Flaubert nous le suggère, la scène recommence. Et donc Frédéric se désolait, et puis vous avez quatre répliques échangées par les deux personnages. « Ah, quelle bêtise !» Ou bien elle l'avait appelé son ami. « Vas-y gaiement alors !»« Mais je n'ose pas !» disait Frédéric. « Eh bien, n'y pense plus. Bonsoir !» Deslauriers se retournait dans la ruelle et s'endormait. Il ne comprenait rien à cet amour, qu'il regardait comme une dernière faiblesse d'adolescence. Et, son intimité ne lui suffisant plus, sans doute, il imagina de réunir leurs amis communs une fois la semaine. Alors, c'est une sorte de réaction de Deslauriers, peut-être pour éviter lui-même d'être ennuyé toujours dans la relation avec Frédéric, avec seulement cette histoire entre eux, ou bien pour Deslauriers lui-même, d'avoir plus d'agrément, de relations sympathiques ou élargies avec d'autres personnes. Et donc cette idée de sortir d'une situation bloquée en choisissant une autre voie, peut-être de distraction pour Frédéric, afin de l'écarter de la situation bloquée, encore une fois, avec Madame Arnoux. Alors cette situation bloquée, elle se manifeste de trois façons différentes. Les deux possibilités que Deslauriers énonce ici, et qui sont comme une alternative. C'est-à-dire, bon, on est devant une situation, on fait l'un ou on fait l'autre, et puis on verra après. Alors, Deslauriers lui dit, eh bien, soit tu y vas gaiement, donc tu essayes de conquérir cette femme, bien qu'elle soit mariée, bon, voilà, c'est l'aventure, hein, ou bien tu y renonces. Mais complètement, pas toujours avec cette passion comme ça. Et la troisième voie, qui n'est pas vraiment une voie que Frédéric choisit pour l'instant, c'est qu'il n'ose pas. Alors, cette situation est, je crois, mise en scène par Flaubert pour nous faire souvenir, par exemple, de débats philosophiques qu'on a pu avoir à l'école, ou bien d'une image bien connue, qui est celle de l'âne de Buridan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette image philosophique. L'âne de Buridan, donc c'est un âne Roba, en japonais, avec son kanji très très difficile. Et l'âne est supposé hésiter hein, souvent à prendre des décisions. Et alors dans cette histoire, qui en fait n'est pas de Buridan, je ne sais pas pourquoi, peut-être quelqu'un l'a inventé après, il y a un âne auquel on apporte un seau de grain à manger et un seau d'eau à boire. Et l'âne a également faim et soif. Et donc il se pose infiniment la question de savoir s'il doit d'abord manger ou d'abord boire, et il meurt. Ben, d'avoir trop attendu à prendre une décision. Alors, il y a en effet un penseur, philosophe, qui s'appelait Jean Buridan, du même nom, donc l'âne de la fable, fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Donc, ce sont des penseurs ecclésiastiques de l'Église, très anciens. Et il a proposé un certain nombre d'images, de réflexions. Mais pour les philosophes, hein, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, déjà chez Aristote, on dit qu'on pouvait trouver certaines équivalences comme ça. Cette idée, disons, de la difficulté du choix entre deux choses qui nous paraissent être d'égale valeur, quoique différentes, bien sûr. Cependant, la première fois qu'on utilise cette image de l'âne de Buridan, c'est Spinoza, dans l'éthique de Spinoza, et à un moment, il parle de cette histoire de choix, et que l'on n'arrive pas à choisir. Mais Spinoza se demande si l'âne qui ne choisit pas, bon, c'est son état d'animal, on y reviendra avec la bêtise de la bête d'aujourd'hui, mais si c'est un homme qui n'arrive pas à se décider, alors on pourra dire que c'est un âne. Ça, c'est une sorte de, un petit peu, pas vraiment de plaisanterie, parce que Spinoza n'est pas connu comme un humoriste, mais disons que si l'on n'arrive pas à choisir, c'est qu'on est bête, c'est qu'on est un âne. Bon. Un autre philosophe, Leibniz, par exemple, considère qu'on est dans une situation de liberté d'indifférence. Alors, ça veut dire que comme les deux ont la même, semblent avoir la même importance, eh bien, il faut prendre n'importe lequel, arbitrairement, pour se débarrasser du problème. Et une fois qu'on aura mangé, on pourra boire. Une fois qu'on aura bu, on pourra manger. Et la situation sera résolue. C'est une forme d'intelligence qui consiste à choisir au hasard l'un ou l'autre, puisque, de toute façon, on pourra s'en sortir après. Alors, cette liberté d'indifférence a été ensuite critiquée, et disons plutôt que dans l'éthologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire la science des espèces ou des animaux, on pourrait dire que, d'une façon générale, la soif est toujours plus importante ou plus forte que la faim. Et donc, dans une telle situation, il n'y a pas véritablement d'équivalence des deux côtés. Il y a un moment où on choisira d'abord de boire. Bon, pour l'âne, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais l'idée était intéressante. Et alors, j'ai souhaité vous proposer ce développement parce que c'est vraiment la situation de Frédéric. Et Frédéric va rester un âne jusqu'à la fin. C'est ce qui est un peu dommage pour lui. Nous nous mettons un peu à sa place, nous disons « Ah, bah si cette femme est vraiment belle, il faut essayer ou bien il faut partir. » Donc, on se met dans la peau d'un Balzac ou d'un Dumas, ou alors au contraire, quelqu'un de plus religieux qui va refuser complètement. Et puis, voilà, Frédéric est au milieu, il ne peut pas, il ne sait pas décider et toute la suite du roman, comme déjà depuis 2 ans, enfin depuis une centaine de pages, c'est la même chose. Il est dans la situation de l'âne de Buridan. Alors, dans cette situation, Des Lauriers essaye de proposer quelque chose qui est de se distraire avec des amis et on verra bien ce qui se passera après. On peut imaginer que ce, se distrayant comme ça avec des amis, il y a la possibilité ensuite de rencontrer d'autres dames, d'autres femmes, d'autres filles, bon, quelle que soit la catégorie qui se présentera. Alors, voyons comment Flaubert présente ces réunions qui commencent à ce moment-là, donc c'est le début, la mise en place, et comme je disais tout à l'heure, Flaubert ne nous dit pas tout de suite quels sont les membres qui vont se réunir dans ces petites soirées une fois la semaine, donc une fois par semaine. Et plutôt, il accentue la notion de groupe, de groupement, qui chez Flaubert n'est pas très courante. C'est souvent une personne, deux personnes. Et dès qu'il y a un groupe, en général, Flaubert est très distant, très critique, comme on le verra aussi avec la bêtise, sur le sujet de la bêtise des masses, des quantités de personnes qui font n'importe quoi sous prétexte, enfin, parce qu'elles sont groupées ensemble, bêtement, faisant la même chose. Bon. Mais ici, c'est un petit groupe, et c'est un petit groupe qui se constitue autour d'une sorte... J'hésite à dire une sorte d'amitié, parce que l'amitié paraît quand même être un sentiment assez fort, mais de connaissance. Connaissance, des goûts partagés, un certain âge, des études, pas tous, hein, du Sardier par exemple, bon, d'autres. Mais voilà. Donc soyons prudents sur le mot ami, amitié. Aujourd'hui, vous savez que grâce à Facebook, on peut avoir beaucoup de friends, beaucoup d'amis, peut-être en japonais c'est tomodachi, mais est-ce que c'est vraiment le sens du mot, hein? Ça se perd un petit peu dans ces usages d'aujourd'hui. Donc, comment ça se passe? Je lis le début. Ils arrivaient le samedi vers 9h. Les trois rideaux d'Algérienne étaient soigneusement tirés, la lampe et quatre bougies brûlaient, au milieu de la table, le pot à tabac, tout plein de pipes, s'étalait entre les bouteilles de bière, la théière, un flacon de rhum et des petits fours. On discutait sur l'immortalité de l'âme, on faisait des parallèles entre les professeurs. Hussonnet, un soir, introduisit un grand jeune homme habillé d'une redingote trop courte, des poignets, et la contenance embarrassée. C'était le garçon qu'ils avaient réclamé au poste l'année dernière. N'ayant pu rendre à son maître le carton de dentelle perdu dans la bagarre, celui-ci l'avait accusé de vol, menacé des tribunaux. Maintenant, il était commis dans une maison de roulage. Hussonnet, le matin, l'avait rencontré au coin d'une rue, et il l'amenait, car Dussardier, par reconnaissance, voulait voir l'autre. Il tendit à Frédéric le porte-cigare, encore plein, et qu'il avait gardé religieusement, avec l'espoir de le rendre. Les jeunes gens l'invitèrent à revenir, il n'y manqua pas. Tous sympathisaient. D'abord, leur haine du gouvernement avait la hauteur d'un dogme indiscutable. Martinon seul tâchait de défendre Louis-Philippe. On l'accablait sous les lieux communs, traînant dans les journaux l'embastillement de Paris, les lois de septembre, Pritchard, Lord Guizot, si bien que Martinon se taisait, craignant d'offenser quelqu'un. En 7 ans de collège, il n'avait pas mérité de pensum et, à l'école de droit, il savait plaire aux professeurs. Il portait ordinairement une grosse redingote couleur mastic avec des claques en caoutchouc, mais il apparut un soir dans une toilette de mariée, gilet de velours à châle, cravate blanche, chaîne d'or. L'étonnement redoubla quand on sut qu'il sortait de chez M. d'Ambreuse. En effet, le banquier d'Ambreuse venait d'acheter au père Martinon une partie de bois considérable. Le bonhomme lui ayant présenté son fils, il les avait invités à dîner tous les deux. « Y avait-il beaucoup de truffes ?» demanda Des Lauriers. « Et as-tu pris la taille à son épouse entre deux portes ?» sicut Beckett. Alors la conversation s'engagea sur les femmes. Pellerin n'admettait pas qu'il y eût de belles femmes. Il préférait les tigres. D'ailleurs, la femme de l'homme était une créature inférieure dans la hiérarchie esthétique. Je m'arrête ici pour l'instant. Donc, nous avons une présentation progressive avec introduction de personnages en fonction du besoin, c'est-à-dire de l'évocation d'un épisode en particulier. On peut bien sûr opposer cette présentation à celle qui aurait consisté à dire d'abord la liste des participants et ensuite à les faire jouer ensemble. Ici, nous pensons d'abord qu'il y a un groupe, mais c'est un peu brumeux et tout de suite cette brume s'installe au milieu des objets. Plutôt, c'est l'organisation, la création d'un espace, d'un lieu sympathique, d'un lieu intime, agréable et principalement un lieu de garçon que l'on peut opposer à un salon mondain, à un lieu de fille, à un café, un restaurant, un bal ou n'importe quoi d'autre. C'est donc le samedi soir, ça veut dire que pour ceux qui travaillent ou qui ont des cours, hein, on est relativement tranquille et la conversation peut se poursuivre très tard dans la nuit. D'ailleurs, on commence vers 9h, hein, donc c'est déjà assez tard. Les trois rideaux d'algérienne étaient soigneusement tirés. Alors l'algérienne, c'est un tissu de l'époque, un tissu avec des grandes rayures, hein, qui était donc de style algérien, où on faisait ce genre de tissu et qui était devenu à la mode depuis que la France, disons, colonisait l'Algérie et donc importait un certain nombre de choses de là-bas qui pouvaient influencer les goûts parisiens. Depuis les années donc 1830, hein, la colonisation de l'Algérie. La lampe et quatre bougies brûlaient. Alors la lampe, c'est très certainement une lampe à huile, et les bougies, donc on a besoin d'un certain nombre de sources d'éclairage pour avoir un endroit agréable. Ça veut dire aussi que ça coûte, hein, l'organisation de petites soirées comme ça régulières, il faut avoir un certain budget. Il est très courant de parler du prix des bougies et les cafés, les théâtres doivent surveiller leur budget, leurs dépenses de bougies et dans les maisons aussi, bien sûr. Donc, dans tous les romans où des jeunes hommes pauvres de type bohème, comme on disait la semaine dernière, essayent de travailler la nuit, ils calculent, hein, leur longueur de bougie pour ne pas en manquer. Et parfois, ils ne peuvent pas étudier tard le soir pour préserver, pour garder la bougie. Donc, c'est un sujet important. Au milieu de la table, le pot à tabac, tout plein de pipes. Et ce qui nous laisse comprendre aussi que, à cette époque, le tabac se fumait dans des pipes. En effet, au XXe siècle, on a beaucoup répandu, popularisé la cigarette, mais qui est un produit de l'industrie mécanique du XXe siècle. Pour avoir des cigarettes, il faut des machines qui permettent de fabriquer la cigarette. Mais de façon plus ancienne, bien sûr, la pipe, avec le tabac qu'on met dedans, donc c'est la façon normale de fumer le tabac. Ça nous laisse comprendre aussi, comme je parlais tout à l'heure de brume, un peu de fumée, hein, que toute cette soirée de garçons est certainement, un peu comme on avait vu à l'art industriel aussi, très brumeuse. Beaucoup de gens fument et pour nos habitudes d'aujourd'hui, ça serait peut-être assez insupportable. La bière, le thé, le rhum, bon, quelques-unes des boissons qui seront utilisées, et des petits fours. Alors, petits fours, je ne peux pas savoir s'il s'agit du même genre que ce qu'on appelle aujourd'hui petits fours, mais on peut supposer que ce sont des petites choses à manger qui sortent du four, du magasin de traiteur. Donc, aujourd'hui aussi, même au Japon, si vous allez chez quelques traiteurs français, vous trouverez ces petits fours avec des morceaux de tomates ou d'anchois ou de fromage qui peuvent être consommés pendant les cocktails. Alors, après cette installation de décors, d'objets, on arrive aux discussions. Et une grande discussion qui fait penser un petit peu à ce qu'on appelle un sujet bateau, un sujet banal, l'immortalité de l'âme. Tout à fait le genre de sujet dont on peut discuter éternellement sans jamais trouver de solution. Et tout le monde va se battre les uns avec les autres. Bon. C'est une banalité, hein, disons, comme sujet. On faisait des parallèles entre les professeurs. Là, évidemment, c'est orienté vers les études pour ceux d'entre eux qui sont étudiants. Hussonnet un soir. Donc, en fait, pour Flaubert, la présentation des séances régulières et répétitives est terminée. Et maintenant, dans ce décor qui a été planté, installé, les personnages arrivent. Et chaque personnage avec un épisode particulier. Alors, Hussonnet, on comprend que Hussonnet est donc un familier, il vient régulièrement, et un soir, il arrive avec quelqu'un d'autre, qui est justement Dussardier, dont on a vu l'autre jour qu'il avait été sauvé, aidé, après la révolte d'étudiants. Ce Dussardier intervient toujours dans le texte de Flaubert de façon surprenante. Il n'est pas attendu. Il arrive, j'allais dire par hasard, mais avec ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est un peu difficile à dire. Il arrive, d'un seul coup il est là. Et si vous regardez justement avec le site internet, hein, par exemple, Intratexte, vous cherchez Dussardier, vous regardez les occurrences de Dussardier, vous allez voir que très souvent, il arrive comme ça, d'un seul coup. Et une phrase se termine, point, la phrase suivante commence, c'était Dussardier. Et jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, hein, vous avez vu, il se retourne, c'était Dussardier. Bon, et maintenant il est mort. Donc, il amena Dussardier, et comment il explique justement l'avoir rencontré? Il l'a pas cherché, l'autre ne l'a pas cherché, il est tombé dessus au coin de la rue. Hussonnet le matin l'avait rencontré au coin de la rue, et il l'amenait, etc. Alors, vous pouvez vérifier dans le site, et on le retrouvera deux ou trois fois encore dans nos lectures, avec toujours cette même façon d'arriver, imprévue. Et cependant, à chaque fois, il se montre comme un individu particulièrement agréable, sympathique, amical. J'écoutais justement l'autre jour cette émission dont je vous avais parlé, avec Pierre-Marc de Biasi, qui est un grand spécialiste de Flaubert, et il disait que Dussardier, c'est le personnage de Flaubert dont Flaubert ne se moque pas. C'est assez rare, hein, parce que Flaubert trouve toujours le moyen de se moquer, de dire quelque chose d'ironique ou d'un peu sarcastique. Mais à propos de Dussardier, Flaubert reste neutre. On peut avoir des jugements d'autres personnages, mais la tournure, hein, la phrase de Flaubert ne dit rien contre Dussardier. Il reste neutre. Donc c'est un personnage toujours positif, on peut dire. Hein. Voilà donc pour Hussonnet et Dussardier, qui sont introduits en même temps dans le texte, même sous deux régimes différents. Alors Dussardier, on a vu son histoire, hein, il a été accusé de vol, il a perdu son travail, il en a pris un autre. Il est maintenant dans une maison de roulage. Alors une maison de roulage, c'est la façon dont on appelait les transports de marchandises, qui se faisaient évidemment dans des voitures tirées par des chevaux, ou éventuellement des bateaux tirés par des chevaux ou par des hommes au bord des rivières ou des canaux. Donc entreprise de roulage, aujourd'hui entreprise de transport de marchandises. Et la première qualité que nous voyons ici à Dussardier, c'est, je dirais, la gratitude. Il a été arrêté, on l'a aidé, plus ou moins bien, finalement il a perdu son travail, bon, tout ça, il n'accuse pas ses amis, entre guillemets, d'en être responsable, c'est tout à fait normal, mais il a gardé le porte-cigare dans l'espoir de le rendre, et il l'a gardé donc pendant déjà assez longtemps. Ça, c'est ce que j'appelle la gratitude, c'est quelqu'un qui attend son occasion pour remercier quelqu'un d'autre. Hein, donc, gratitude de dire merci. Cette gratitude pourrait être la marque d'un individu fidèle, d'un individu droit, d'un individu honorable, responsable, etc. Il y a plusieurs possibilités. Hein, nous verrons que, pour Dussardier, il s'agit d'abord d'un caractère droit, et qu'il exprime sa pensée comme il l'a fait au moment de la révolte des étudiants, et que c'est la même expression de sa pensée qui l'amènera à mourir. On pourra modérer un peu le propos, parce que à un moment, Dussardier a exprimé qu'il était très très déçu des changements politiques et qu'il aimerait plutôt se faire tuer. Alors peut-être que son geste final est une sorte de suicide, de brave, ne voyant pas d'amélioration de la situation démocratique, la situation du peuple, qui est d'abord sa première préoccupation. En bas de la page 83, donc tous sympathisaient d'abord leur haine du gouvernement. Donc, la haine du gouvernement comme un des points communs entre les personnes, sauf Martinon, donc présenté à la page suivante, qui tâchait de défendre Louis-Philippe. Hein, alors, tâcher, ça veut dire essayer de, mais avoir beaucoup de difficultés. Hein, évidemment, s'il y a 5 ou 6 autres qui sont toujours contre, c'est difficile pour un seul de défendre Louis-Philippe. Énumération de lieux communs, c'est Flaubert lui-même qui dit l'expression, c'est-à-dire des banalités, mais des banalités qui sont des banalités de l'époque, et donc pour nous extrêmement intéressantes comme témoignage de ce qui intéressait les gens à l'époque. L'embastillement de Paris, voilà une expression étrange. La Bastille, c'est la prison qui a été détruite le 14 juillet 1789, elle n'existe donc plus. Mais, cependant, le mot « embastillement » existait déjà avant et continue à exister après, et qui veut dire « être mis en prison ». Alors, comment est-ce qu'on peut embastiller Paris, c'est-à-dire mettre en prison Paris ? Eh bien, il s'agit d'un projet sous ce gouvernement de Louis-Philippe, un projet de construction de murs autour de Paris et qui seraient des murs dépassant les villages à la limite de Paris, de façon à protéger également ces villages. Alors il y en avait un certain nombre comme ça autour de Paris, peut-être vous connaissez dans ce qui est aujourd'hui le 17e arrondissement, c'est pas loin de nos rues là, le quartier des Batignolles, eh bien, les Batignolles, c'était un village. La limite de Paris était en dessous. Et ces fortifications, on va les appeler comme ça, de Louis-Philippe, allaient au-delà des Batignolles. Et en fait, traçait à peu près la limite actuelle de Paris. Donc, avant ces fortifications, édifiées sous le gouvernement de Thiers, Adolphe Thiers, T-H-I-E-R-S, qui aura une longue vie politique, Donc ces fortifications avaient un but, bien sûr, de protéger Paris et les villages qui produisaient un certain nombre de nourriture essentielle pour Paris en cas d'attaque, d'agression, de guerre ou autre. Mais du point de vue d'un certain nombre de gens, hein, du peuple en particulier, ces fortifications étaient une forme d'isolement qui obligeait tout un chacun à payer ou à passer des contrôles de police, ce qui n'était pas évidemment agréable et pas populaire non plus. Alors cet embastillement de Paris est une expression d'un penseur un petit peu antérieur à notre époque. Il s'agit de François Arago. Vous connaissez peut-être le boulevard Arago. Attention, ce n'est pas le même que Aragon, le poète romancier du XXe siècle. Là, il s'agit de Arago. Et Arago, qui était donc également un homme politique, et qui a écrit une lettre contre l'embastillement de Paris en 1833. Donc quand même une bonne dizaine d'années avant, enfin là ça fait 9 ans, oui, 9 ans avant 1842. Ces fortifications seront commencées en 1841, donc c'est vraiment quelques mois avant les réunions de nos amis, et elles seront achevées en 1846. Donc ça dure pendant 5 ans pour construire tout autour de Paris ces murs. En même temps que des murs, on avait disposé ce qu'on appelle un espace inconstructible. Dans la technique de guerre, on appelle ça aussi un glacis. C'est une zone où on ne peut pas construire, où on doit pouvoir surveiller. Alors je dis ça 2-3 jours avant que l'on célèbre à Berlin les 20 ans de la chute du mur de Berlin. Vous pourrez regarder ça, vous verrez ce que c'est que d'avoir un mur et de chaque côté du mur une zone totalement inconstructible pour la surveillance. Voilà, c'est tout à fait du même ordre. En même temps, ces fortifications vont devenir un lieu populaire. Donc c'est paradoxal, hein. Même si le peuple ne les aime pas, elles vont devenir un lieu populaire, un lieu où la bourgeoisie de Paris va aller s'amuser, se distraire. On va même dire s'encanailler. S'encanailler, c'est-à-dire devenir un peu comme les canailles, comme les petits voyous qui vont jouer de l'argent, qui vont boire et fumer, qui vont voir des filles, évidemment, sous les fortifs. On va les appeler les fortifs, comme ça. Rapidement, pourtant, ces murs ne rendront pas les services que l'on attendait d'eux, et de nombreux régimes politiques vont les critiquer. Et c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, donc à partir de 1919, que l'on va décider de les détruire. Donc c'est quand même assez éphémère, hein, moins d'un siècle, pour ces, bon, une décision politique très contestable. Donc. Alors on comprend, hein, que ces jeunes gens discutent de l'embastillement de Paris au moment où justement on est en train de construire ces murs. Donc, l'embastillement, hein, c'est vraiment le mouvement de mettre en Bastille, de mettre en prison, hein, on est en train de le faire. C'est tout à fait d'actualité. Flaubert a très très bien choisi son expression. Les lois de septembre. Alors les lois de septembre, évidemment, c'est pas chaque année en septembre, hein, ça désigne un cas particulier. Il s'agit de 3 lois, plus ou moins par hasard, qui ont été votées, décidées, on dit promulguées, le même jour, le 9 septembre 1835. Le 9 septembre 1835, donc on est toujours dans le même régime politique, hein, 3 lois ont été votées et qui visent toutes les 3 à peu près à la même chose, c'est la défense du régime politique. Alors, ces trois lois interdisent un certain nombre de choses, et en particulier l'expression. L'expression de n'importe quelle critique contre le gouvernement, la famille du roi, la charte de 1830, faire la promotion de la République ou du socialisme, on ne parle même pas, c'est encore pire, ou de n'importe quel autre régime, y compris la royauté de l'autre branche tout à fait interdite, elle aussi. Évidemment, ces interdictions sont à la fois pour les citoyens, mais également pour les journaux et toutes les formes d'expression publique ou écrite, y compris la littérature ou le dessin. Et une de ces lois, justement, concerne les dessins, les gravures, les lithographies, les affiches, qui doivent toutes obtenir l'autorisation du ministre de l'Intérieur ou du préfet dans les départements avant d'être affichées, avant d'être publiées. Donc vous voyez, ce sont des contraintes très 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 lourdes contre la liberté d'expression que l'on n'imaginerait pas aujourd'hui, hein, ou que l'on combat dans un certain nombre de pays où elles existent encore. Donc là, c'est un régime très lourd de ce point de vue. Donc ce sont les lois de septembre, donc 35. Alors Pritchard et Guizot, on pourrait les mettre ensemble. Je crois que j'ai dit il y a une semaine ou deux, Pritchard, c'était un missionnaire anglais qui avait réussi à soulever la population de Tahiti contre le protectorat français. Et pour éviter d'aggraver les relations avec l'Angleterre, Guizot avait essayé de faire retomber la pression et il avait un peu défendu, un peu aidé ce Pritchard. Et donc pour cette raison, Guizot se trouve en quelque sorte accusé d'être Lord. Lord, hein, qui est le mot anglais, évidemment en France, ça semble être une insulte, hein, contre Guizot. En Angleterre, c'est très bien d'être un Lord, hein. Même Paul McCartney est très content d'être Lord Paul McCartney. Bon, je suis content pour lui. Mais pour Guizot, là, c'était une véritable critique, hein, d'être pour l'anglais. Alors, en France, lorsqu'on dit pour l'anglais, ça réveille la guerre de 100 ans. Hein, Jeanne d'Arc revient d'un seul coup devant nous, hein, pour montrer ce monstrueux anglais. Donc voilà, devant toutes ces difficultés, Martinon n'arrive pas vraiment à défendre, hein, Louis-Philippe. Et c'est l'occasion pour Flaubert de faire un petit peu d'introspection, c'est-à-dire d'entrer un petit peu dans la personne de Martinon, grâce à cet épisode, de nous montrer pourquoi ou comment Martinon est comme ça, pourquoi il est comme ça. Donc on a un tiret comme ça, et puis « si bien que Martinon se taisait, craignant d'offenser quelqu'un », et après, les raisons, si vous voulez, de son comportement. En 7 ans de collège, il n'avait pas mérité de pensum. Alors pensum, c'est une punition. Lorsque vous avez mal travaillé, lorsque vous avez fait quelque chose de mal poli, on vous donne un devoir à faire, des copies, des choses à copier comme ça, pendant quelques heures, et il faut les ramener au professeur qui doit vérifier si vous avez bien fait votre punition. À l'école de droit, il savait plaire aux professeurs. Alors ça veut dire leur faire plaisir, répondre comme il faut, hein, alors que d'autres, au contraire, essayent toujours de marquer leur différence ou leur opposition. Voilà. Alors ces réunions continuent et puis on ne va pas trop détailler. Ensuite, lorsqu'il revient, il revient avec un costume tout à fait différent et on apprend qu'il est allé chez Monsieur d'Ambreuse. Alors ça étonne beaucoup. Bon, on a la raison pour une affaire commerciale et des lauriers, demande, as-tu pris la taille de son épouse entre deux portes, si tu te décèdes? Voilà donc une petite citation de latin. On se demande toujours d'où ça vient le latin. Ces jeunes gens apprennent le latin, pas comme nous, hein, même pas comme moi d'ailleurs. Et alors, si tu te décèdes, ça veut dire comme il convient. Comme il convient. Mais ce n'est pas une expression bénigne, enfin banale, disons. Plutôt, on pense à cette expression en relation avec un passage du texte de la Bible, qui est assez fameux, assez connu, qui est dans un livre de la Bible qui s'appelle l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens. Donc une sorte de discours distribué aux habitants de Éphèse, certainement pour leur faire la morale, hein, pour leur interdire un certain nombre de choses. Alors dans cet épître aux Éphésiens, à qui il semblerait qu'on reproche des choses, le texte de la Bible dit, attendez que je le retrouve, qu'on n'entende pas même parler parmi vous de fornication, ni de quelque impureté que ce soit, ni d'avarice, comme il convient à des saints. Donc le sicut des sept, sanctus, comme il convient à des saints. Des saints, S-A-I-N-T-S. Donc, comportez-vous comme des saints. Et pour vous comporter comme des personnes saintes, eh bien, il faut écarter complètement, interdire complètement des sujets comme la fornication, l'impureté ou l'avarice. Alors la fornication, hein, c'est de coucher avec n'importe qui n'est pas sa femme ou son mari, hein, forniquer. L'impureté, eh bien, toutes sortes de choses qui ne sont pas pures. Et l'avarice, c'est le fait de ne pas dépenser son argent, en particulier pour le culte, hein, dépenser pour le culte. Et donc, cette épître aux Éphésiens est très connue, on apprend dans l'éducation religieuse ce genre de choses, et le terme reste en latin. Il est possible aussi que des lauriers connaissent le terme, dans des textes de droit. Alors là, je ne suis pas spécialiste de textes de droit. Si Flaubert pensait à quelques textes de droit particuliers en latin, nous devrons le demander à d'autres spécialistes, peut-être. Mais l'idée reste, c'est-à-dire comme il convient. Alors évidemment, à quel sujet, hein, as-tu pris la taille à son épouse entre deux portes comme il convient? Évidemment, c'est quelque chose tout à fait sarcastique et on pourrait dire une sorte de antiphrase, hein, c'est-à-dire prendre la taille à son épouse, donc c'est un geste très, très familier, vulgaire même, comme il convient, ça voudrait dire qu'il conviendrait de le faire et donc d'être vulgaire. Bon, donc c'est une sorte de liberté du soir, hein, après quelques verres d'alcool, lorsqu'on commence à parler des femmes et des filles. Et ça veut dire également, ce que nous ne savons pas encore très bien, que Madame d'Ambreuse est sans doute une jolie femme. On ne va pas faire ça avec n'importe laquelle. Donc, c'est un certain nombre d'informations qui nous sont données en même temps. Alors, Frédéric va ramener son image à lui, hein, puisqu'on commence à parler des femmes, vers le bas de la page 84, juste après. Bon, le peintre pèlerin s'oppose pour des raisons esthétiques. Hein. Ce que vous aimez dans la femme, c'est pas la femme, c'est les seins, les cheveux. Alors là, c'est pas les seins au sens des personnes saintes, hein, mais les seins de la femme. Et alors, Frédéric objecte, objecter, c'est-à-dire contredire, hein, répond. D'une autre façon, de longs cheveux noirs avec de grands yeux noirs. Bon, nous voyons bien à qui Frédéric pense. Et Ussonnet, c'est quand même une image assez connue, hein, cette image de la femme, l'image de la belle femme à cette époque est plutôt brune. Donc ça, c'est un peu étonnant peut-être pour des gens qui ont vécu, disons, la deuxième moitié du XXe siècle, où la blonde est devenue l'icône, hein, par excellence, hein, dans le cinéma, par exemple, ou dans la photographie. Mais à cette époque, la brune avec les yeux noirs, justement. Et alors, Ussonnet résume d'une façon extraordinaire, que tous les amateurs de Flaubert connaissent par cœur, « Assez d'Andalouse sur la pelouse, hein, ». C'est une très belle expression inventée à cette occasion. « Des choses antiques, serviteurs, car enfin, voyons, pas de blague, une Laurette est plus amusante que la Vénus de Milo. Soyons Gaulois. » Alors justement, Gaulois, c'est le mot qui me manquait tout à l'heure, l'attitude de Deslauriers parlant de Madame d'Ambreuse, c'est une attitude de Gaulois, c'est-à-dire avec des propos très libres sur la sexualité qui ne sont pas autorisés à d'autres moments de la journée ou dans d'autres cercles de la société. Cette gauloiserie, puisque le mot existe, cette gauloiserie s'exprime ici d'une façon encore plus vulgaire, je dirais, en opposant la Vénus de Milo, qui est une statue, comme vous savez, sans bras. Bien sûr, elle n'a pas été faite sans bras, elle les a perdus à cause du temps, et en opposant cette statue sans bras à une Laurette. Qu'est-ce que c'est qu'une Laurette? Eh bien, c'est une jeune fille assez facile à séduire, qui éventuellement se fait entretenir, on a vu le mot la semaine dernière, ou rémunérer ses services. Et en particulier, on dit de ces jeunes filles qu'elles savent très bien utiliser leur corps, et en particulier leurs bras, bien entendu. Hein. Et donc les Laurettes savent très bien utiliser leurs bras pour faire l'amour, hein, évidemment, tandis que la Vénus de Milo, elle est belle, mais elle est tout à fait incapable. Bon, voilà le genre de gauloiserie dite par Ussonnet. En même temps, cette Laurette, elle a une origine particulière, elle habite dans le quartier, encore aujourd'hui, qui se nomme le quartier Notre-Dame-de-Lorette. Il y a une église Notre-Dame-de-Lorette et le quartier, qui se trouve à peu près entre les boulevards, enfin le boulevard de Blanche à Pigalle, de la place Clichy au Gard, hein, si vous voulez, et les grands boulevards. Donc ceux où est l'art industriel, les boulevards Montmartre, etc. Donc entre ces deux lignes parallèles de boulevards, il y a le quartier de Notre-Dame-de-Lorette. Donc évidemment, c'est pas très loin, hein, pour les bourgeois qui habitent les belles maisons, les belles avenues. Il n'y a que quelques rues à faire pour arriver dans le quartier des Lorettes. Voilà à peu près comment ça se passe. Alors, je saute quelques passages et je vous fais remarquer un certain nombre d'événements. Par exemple, à la page 85, jusqu'à maintenant, les personnages discutent entre eux, ils ne sont pas d'accord, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, à la page 85, aux deux tiers, il y a quand même une petite dispute entre Frédéric et Sénécal. On a découvert que Sénécal était lui aussi parmi les invités. Un soir qu'il venait de partir et que la neige tombait, Sénécal se mit à plaindre son cocher. Puis il déclama contre les gants jaunes, le jockey club. Alors, à plaindre son cocher, il plaint le cocher de Monsieur de Sizy, parce que Monsieur de Sizy est d'une famille très riche, et donc il a une voiture et un cocher. Le cocher, qui est le conducteur de la voiture, attend dans la voiture dehors. Et comme c'est l'hiver et qu'il neige, on peut se dire que cet individu n'a vraiment pas de chance de faire ce métier-là. Donc, on commence à le plaindre, sincèrement, puis il déclama contre les gants jaunes, alors ce sont les gants très clairs portés par les gens très riches, le Jockey Club, genre de club également destiné aux riches et aux aristocrates, et il faisait plus de cas, donc plus d'importance, d'un ouvrier que de ces messieurs. Ces messieurs étant une façon insultante un peu, méprisante, de dire ces messieurs les riches, ces messieurs les aristocrates. Moi, je travaille, au moins, je suis pauvre. Alors, c'est une sorte de paradoxe, hein. À l'époque de Sarkozy, on trouve un peu la même chose d'ailleurs. Il faut travailler plus pour gagner plus, mais finalement, on reste pauvre. Donc on se demande si le fait de travailler plus, c'est pas le seul moyen d'être pauvre. Alors ce paradoxe se manifeste ici d'une façon très concentrée. Moi je travaille, au moins je suis pauvre. Donc si on prend le contraire, hein, ça veut dire que si on ne travaille pas, on est riche. Non, en fait c'est parce qu'on est riche qu'on ne travaille pas, et c'est parce qu'on est pauvre qu'on travaille. Ah voilà, c'était à l'envers. Bon, ça c'est Sénécal. Mais Frédéric lui répond, cela se voit, dit-il à la fin impatienté. Alors, cela se voit, c'est-à-dire, ça se voit que vous êtes pauvre. Alors là, c'est une insulte quand même à l'apparence physique. Et Sénécal n'aime pas beaucoup. Hein. Donc le répétiteur lui garda rancune pour cette parole. Répétiteur parce qu'il donne des cours, hein. Il fait répéter des leçons pour un salaire sans doute misérable. Voilà. Ensuite, on présente Sénécal et Regimbard. Alors, Sénécal et Regimbard semblent avoir en commun d'être tous les deux patriotes. Patriotes au sens de toujours pour la guerre, hein, toujours prêts pour la guerre. Il y a toujours des bonnes raisons pour faire la guerre. Mais Flaubert nous fait comprendre que ils sont certes patriotes, mais de deux façons assez différentes. Et l'un est donc pour les systèmes, une question de système, quelque chose d'abstrait, disons, hein, presque de philosophique ou de politique au sens gouvernemental, c'est Sénécal. Alors je ne sais pas si c'est important, Sénécal qui avait un crâne en pointe. Qu'est-ce que ça veut dire, un crâne en pointe? Ça veut dire un crâne comme ça, hein, un crâne assez long comme ça, qui forme comme une pointe. C'est-à-dire pas rond comme je sais pas, le nôtre, un crâne en pointe comme ça. C'est un petit peu bizarre parce qu'en même temps, crâne en pointe, ça fait penser à casque à pointe. Et le casque à pointe, c'est chez nos voisins germaniques, où il y a des casques à pointe. Alors, est-ce qu'il y a une allusion comme ça, un peu guerrière, hein, au sens... Bon, je n'en suis pas certain. Ou alors, c'est simplement pour se moquer de lui par son aspect physique de crâne en pointe. Là, je n'ai pas d'explication. Mais, pour Regimbard, donc là, c'est le contraire. C'est pas les systèmes, c'est les faits, hein, seulement les faits. Et... ce qui l'inquiétait principalement, c'était la frontière du Rhin. Alors la frontière du Rhin, c'est aussi la frontière avec, à l'époque, c'est la Prusse, hein, c'est pas encore l'Allemagne, la Prusse et les voisins germaniques, dont on craint toujours la force guerrière. Bon, à voir, il faudra attendre quelques années encore avant d'avoir la guerre. Voilà, je passe un peu la suite des explications pour ne pas perdre trop de temps. Nous avons vu dans ce petit passage, hein, la présentation du groupe et comment ça se passe, une soirée ou un certain nombre de soirées un peu mélangées de cette façon. Mais je crois que pour Flaubert, c'est plutôt la volonté de montrer comment des gens vivaient, des jeunes gens vivaient ensemble à cette époque. Aujourd'hui, si l'on voulait expliquer comment les étudiants vivent à l'université, quelles sortes de fêtes on fait, quelles sortes de propos on peut avoir, eh bien, il y a très certainement des romanciers, des romancières d'aujourd'hui qui racontent ça et qui utilisent ce genre de scène pour montrer la façon de vivre aujourd'hui. Et c'est ce qui deviendra utile dans quelques dizaines ou centaines d'années. Alors, deuxième passage que je vous ai proposé, page 95. La vie à Paris continue, les études ne sont pas très sérieusement suivies par Frédéric, mais on sait, vous savez sans doute, qu'avant la fin de ce chapitre, il va se remettre sérieusement à travailler, il va réussir ses examens, et donc ce temps d'études, d'étudiant, ce statut d'étudiant étant achevé, il repartira chez sa mère. Et la fin de ce chapitre 5 marque donc la fin d'une première partie de vie à Paris, une première tranche de vie à Paris, qui est la tranche étudiant. Après, le retour sera évidemment dans un autre mode, qui sera le mode héritier. Hein, tout à fait différent de la vie d'étudiant plutôt pauvre, hein, finalement. Pendant tout ce temps, Frédéric a réussi à aller régulièrement chez les Arnoux, à voir madame, et puis elle est partie chez sa mère, souffrante, et pendant un certain temps, on ne l'a pas revue. Alors Frédéric passe très régulièrement pour demander quand reviendrait madame Arnoux, parce que c'est un très... comment dire, une habitude bourgeoise du 19e siècle et du 20e aussi, quand madame n'est pas là, on n'organise pas de dîner. On peut faire autre chose, on peut sortir, on peut aller au restaurant, mais on n'organise pas de dîner salon à la maison, qui est donc normalement organisé, présidé par madame. Donc si madame n'est pas là, il n'y en a pas. Donc le groupe se défait ou se refait ailleurs, évidemment. Alors, en bas de la page 95, Frédéric repasse encore une fois et il demande quand on reverrait madame. Mais un soir, vers la fin de novembre, Arnoux lui dit « Ma femme est revenue hier, vous savez ?» Ben non, sinon il ne savait pas. Donc, le lendemain à 5 heures, il entrait chez elle. Il débuta par des félicitations à propos de sa mère, dont la maladie avait été si grave. « Mais non, qui vous l'a dit ?» Arnoux, elle fit un « A » léger, puis ajouta qu'elle avait eu d'abord des craintes sérieuses, maintenant disparues. C'est assez ambigu, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein. Est-ce que vraiment la mère de Madame Arnoux est malade ? Est-ce que ça ne cache pas autre chose ? C'est assez bizarre, hein. Parce que Madame Arnoux semble être surprise que l'on parle de sa mère. Bon, peut-être qu'elle-même n'en avait pas parlé à Frédéric, donc... Elle pense qu'il ne le sait pas, et il le sait. Ou alors, il y avait autre chose. Et elle apprend que Arnoux a un petit peu caché, comme ça, quoi, en disant que sa mère était malade. Donc ça reste un mystère. Hein. De la même façon que dans Madame Bovary, hein, on ne sait jamais ce qui se dit dans la conversation à la fin, quand elle cherche de l'argent... avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le personnage là qui était dans son tonneau à chasser les canards. Il y a une conversation, comme ça, on entend un petit peu, mais on ne peut pas savoir. Mystère. De temps en temps, il y a comme ça de ces mystères chez Flaubert. Alors, si vous trouvez dans des livres sur Flaubert, dans des critiques, etc., quelques explications sur l'absence de Madame Arnoux, ça m'intéresse beaucoup. Donc, elle est là, page 95 en bas. Elle se tenait près du feu, dans la bergère de tapisserie. Il était sur le canapé, avec son chapeau entre ses genoux, et l'entretien fut pénible. C'est le mot qui caractérise, je crois, cette reprise des relations. C'est une reprise un peu pénible. On a du mal à se parler, on a du mal à trouver des sujets de conversation et à se tenir. Alors peut-être que cette sorte de malaise vient d'un sentiment peut-être partagé des deux côtés, c'est-à-dire Madame Arnoux ressent quelque chose pour Frédéric, mais bien sûr ne peut pas l'exprimer. Frédéric, on le sait, est trop timide, n'ose pas, et donc ils sont un peu bloqués. Si Madame Arnoux était tout à fait indifférente, elle pourrait lui parler de n'importe quoi, de son costume, de ses études, de ses amis, enfin, c'est la mondanité classique. Mais si elle est elle-même gênée, est-ce qu'elle a quelque chose à cacher, soit son sentiment, soit d'autres choses, hein, ses problèmes avec son mari, par exemple, comme ça apparaîtra dans une scène en particulier. Alors, Frédéric a toujours de l'espoir, cependant. On commence la page 96, et elle se leva. Alors, juste avant qu'elle ne se lève, hein, il y a une phrase assez belle, assez poétique. « Le crépuscule amassait de l'ombre autour d'eux. » C'est un deuxième paragraphe de la page 96. Donc, on a du mal à discuter ensemble, le soir approche, hein, la lumière diminue, et le crépuscule amassait de l'ombre autour d'eux. Alors, cette idée de amasser, hein, de accumuler de l'ombre, hein, c'est comme une sorte de difficulté, hein, qui augmente comme ça de seconde en seconde. C'est la marque de la lourdeur, de la pesanteur, de l'aspect pénible, comme on disait tout à l'heure. Elle se leva, c'est presque un soulagement, hein, ayant une course à faire, puis reparut avec une capote de velours, une sorte de cape par-dessus son vêtement, et une mante noire bordée de petits gris. Il osa offrir de l'accompagner. Quand même, hein, il ose quelque chose. C'est marcher dans la rue ensemble. On n'y voyait plus. Donc voilà, la nuit était tombée. Le temps était froid et un lourd brouillard. Alors Frédéric considère que ce brouillard est peut-être une sorte de chance. On se cache dans le brouillard et on peut tenter quelque chose. Bon, c'est vraiment ridicule, hein, de sa part, mais voilà, ça arrive, hein. Et sa main, prise dans un gant chamois à deux boutons, sa petite main qu'il aurait voulu couvrir de baisers, s'appuyait sur sa manche. Alors ça, c'est une convention tout à fait normale, hein, de donner son bras à une dame. Il n'y a là aucune familiarité. Les rues, par ailleurs, dans Paris, ne sont pas toutes bien droites, hein, pas pavées, pas toutes... Bon. Donc il vaut mieux aider madame à marcher. À cause du pavé glissant, justement, ils oscillaient un peu. Il lui semblait qu'ils étaient tous les deux comme bercés, etc. Alors, on arrive sur le boulevard. Donc là, c'est un petit peu mieux éclairé. On peut marcher plus à son aise. Et Frédéric se dit, l'occasion était bonne. Frédéric se dit, hein, lui-même, l'occasion est bonne. C'est la bonne occasion. Il se donna jusqu'à la rue de Richelieu pour déclarer son amour. Alors, je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de mètres, hein, une possibilité. Mais, presque aussitôt, devant un magasin de porcelaine, elle s'arrêta net en lui disant « Nous y sommes, je vous remercie. À jeudi, n'est-ce pas, comme d'habitude. Oh. » Zannen desne, vraiment, c'est encore raté. Les dîners recommencèrent. Hein, on voit bien ici ce « recommencèrent ». Ah, oh, c'est lourd, hein. Les dîners recommencèrent. L'occasion a été manquée et apparemment il n'y a pas beaucoup, hein, pas souvent d'occasions comme ça. Bon, ça c'est... Alors, ces dîners qui recommencent, c'est, ça se transforme en fait en quelque chose qui devient de plus en plus désagréable et pénible pour Frédéric. On était tout de même jusqu'à maintenant dans le domaine des rêves, de l'imaginaire, et pour Frédéric, ce domaine va continuer, bien sûr, mais devenir un peu énervant, lancinant, désagréable. Et il va parler donc de langueur, hein, plus c'est langueur augmentée. Alors ce mot « langueur » est presque toujours utilisé pour les femmes. Langueur ou langoureux. L'adjectif qui correspond, on utilise presque toujours ce mot pour un comportement féminin, de faiblesse, d'indécision, de passion un peu molle, comme ça. Et donc, l'utiliser pour un homme, marque bien le caractère assez faible, assez timide, bien sûr, de Frédéric. À partir de maintenant, donc, la description qui est faite, c'est une description imaginaire des pensées, des rêves de Frédéric, qui espère toujours une occasion, une possibilité de transformer complètement sa vie. Donc, en bas de la page 96, d'abord, toutes les personnes qu'il voit, que ce soit des prostituées, des écuyères, des bourgeoises, donc on résume finalement toutes les femmes, lui rappelaient celle-là. Donc on est dans une situation précisément définie par le mot de obsession. Hein, il est dans une obsession féminine qui va devenir, qui va se transformer en une sorte d'amour qu'on pourrait dire platonique. Bon. Ou bien, on va trouver le mot à la page 99, en haut de la page, deuxième ligne, qui sera une apostrophe hein, de son ami. Ah, vieux troubadour. Alors ce mot de troubadour, vous le connaissez sans doute comme celui qui chante des romances pendant le Moyen-Âge, sous les fenêtres des belles, et dont l'image va rester dans la culture française, jusqu'à la pièce Cyrano de Bergerac, hein, avec là encore un troubadour sous la fenêtre. Cependant, cette image du troubadour avait quand même à peu près disparu jusqu'au XVIIIe siècle, mais elle a été réveillée par le mouvement romantique. Une image, une sorte d'image un peu mièvre, un peu ridicule hein, du romantisme, ramenait cette idée de troubadour et plus particulièrement cette notion du Moyen-Âge qui était l'amour courtois. L'amour courtois. L'amour courtois, c'est donc une forme d'amour où il n'y a pas de sexualité, où il y a une expression de courtoisie extrême, où l'homme est le chevalier d'une dame et il va se battre pour elle. Cet amour courtois, il va s'exprimer à travers différentes images que Flaubert nous propose à partir donc, de cette page 97. Voyant toutes les femmes et toutes les femmes lui rappelant Madame Arnoux, il va commencer un peu à délirer dans cette obsession, il y a une forme de délire aussi, et il y ramène des images classiques, des images anciennes de scènes, d'histoires, d'aventures, le plus souvent avec cette sorte de chevalier courtois, chevalier servant, où il n'y a pas de sexualité. Alors on commence en haut de la page 97 avec cette notion de concentration, hein, c'est-à-dire toutes les femmes font penser à cette femme, mais ensuite tous les objets, toutes les rues, n'importe quoi, tout ramène à Madame Arnoux. Donc c'est vraiment l'expression exagérée de l'obsession. À l'éventaire des marchandes, les fleurs s'épanouissaient pour qu'elle les choisît en passant. Dans la montre des cordonniers, les petites pantoufles de satin bordées de cygne semblaient attendre son pied. Toutes les rues conduisaient vers sa maison. Bon, une version nouvelle de... Vous connaissez peut-être la phrase « Tous les chemins mènent à Rome ». Bon, qui était de nature plus politique, hein, disons. Voilà, exactement. Hein, et donc ici, retourner hein, dans le sens « Toutes les rues conduisaient vers sa maison », pas du tout politique, évidemment. « Les voitures ne stationnaient sur les places que pour y mener plus vite. Paris se rapportait à sa personne et la grande ville, bon, c'est tout à fait délirant, hein, bien entendu. » Après ces éléments matériels, on passe dans l'imaginaire total et ils voyageaient ensemble au dos des dromadaires, sous le tendelet des éléphants. Tendelet, c'est une sorte de petite tente posée sur l'éléphant pour abriter les passagers. La cabine d'un yacht, côte à côte sur des mulets, etc., etc. Donc, toutes sortes d'images dans beaucoup de pays. C'est le délire, hein, je dirais. Lorsqu'il passe au Louvre, il la voit coiffée d'un hennin. Alors, hennin, c'est au milieu de la page 97, hein, H-E-2-N-I-N, c'était un chapeau féminin de l'époque, disons, du 13e ou du 14e siècle. Oui, c'est ça, vers 1420, donc 15e siècle. Et pendant une cinquantaine d'années à peu près, cette sorte de chapeau a été à la mode. C'était un chapeau en forme conique, donc vous avez dû voir ça dans des peintures anciennes de cette époque, donc du 15e, avec des voiles qui tombent attachées le long du chapeau et jusqu'à la pointe. Et ces voiles, la longueur de ces voiles était en rapport avec l'importance de la personne. Ah, donc c'est une princesse, bien sûr, elle aura des longs voiles à son hennin. Alors ce hennin, bien sûr, nous rapproche un petit peu du Moyen-Âge, hein, et de cette idée d'amour courtois. Bien sûr, il y a d'autres scènes. Elle descendait quelques grands escaliers de porphyre. Porphyre, c'est du marbre. Alors, Flaubert a choisi des mots un peu compliqués. Hein, il fait exprès. Alors, on se retrouve un peu comme avec Salammbô. Hein, si vous voyez le roman Salammbô de Flaubert, où Flaubert a fait exprès de ramasser une quantité extraordinaire de mots rares et difficiles, se rapportant à l'Orient, bien entendu, mais également au passé, à toutes sortes de périodes, d'objets, etc. Bon. Et ici, on a un petit concentré, comme ça, avec, là aussi, des mots très rares en français. Hein, je crois que des romanciers du 19e siècle qui ont utilisé le mot « hennin », il ne doit pas y en avoir beaucoup. En revanche, « porphyre », pour désigner le marbre, est très courant dans la poésie. On a beaucoup de poésie, d'ailleurs à toutes les époques. Le porphyre est à la mode. Au milieu des sénateurs, sous un dais de plumes d'autruche. Alors un dais, c'est une sorte de tente pour transporter une personnalité en plumes d'autruche. Une robe de brocart. Le brocart, c'est un tissu de soie très richement tissé et avec des broches, justement brocart, ça vient de broche, brochet, avec des broches d'or et d'argent, donc pour montrer évidemment la richesse de la personne. Alors on finit par totaliser l'ensemble des choses à la fin de ce paragraphe. Et tout ce qui était beau, le scintillement des étoiles, certains airs de musique, l'allure d'une phrase, un contour, l'amenait à sa pensée d'une façon brusque et insensible. L'amenait, c'est bien sûr, amenait Madame Arnoux à sa pensée d'une façon brusque et insensible. Vous noterez cette sorte de paradoxe, hein, entre les deux mots, brusque, c'est quand même ce qui arrive d'un seul coup, et en même temps insensible. C'est assez difficile de faire ensemble quelque chose de brusque et d'insensible. Normalement, ce qui est brusque, justement, provoque une sensation. Donc, brusque et insensible, ça ne semble pas aller ensemble. On est dans le domaine de l'imaginaire. Quant à essayer d'en faire sa maîtresse, il était sûr que toute tentative était vaine. Donc, il y a là maintenant, beaucoup plus qu'avant encore, la marque très claire pour Frédéric du renoncement. Le renoncement est tout à fait clair. Il y aura peut-être d'autres périodes d'espoir, hein, mais en ce moment, il renonce tout à fait. Alors, page 98, cette idée d'amitié, hein, cette fois, c'est évidemment entre des hommes que Madame Arnoux embrasse familièrement, elle les baise sur le front, comme on fait à des amis. Et bien sûr, Frédéric aimerait bien, lui aussi, être dans cette familiarité-là, mais ça n'est pas possible, et il préfère y renoncer plutôt que de demander. Donc, la fin du paragraphe en haut de la page 98. « Or, il préférait toutes les douleurs à l'horrible chance de ne plus la voir. » On a vu la semaine dernière cette horrible chance, là aussi, sous forme un peu paradoxale. Et on va expliquer justement cette notion d'amour courtois ou troubadour. Alors, au paragraphe suivant, « Une chose l'étonnait, c'est qu'il n'était pas jaloux d'Arnoux. » C'est-à-dire, Frédéric lui-même se rend compte, hein, il essaye un petit peu de comprendre, un peu d'introspection, je regarde moi-même ce que je fais, et tiens, c'est bizarre, je ne suis pas jaloux d'Arnoux. Pourquoi ne suis-je pas jaloux d'Arnoux ? Et alors, est-ce qu'il s'en rend compte vraiment, ou bien c'est Flaubert qui va un peu plus loin, après se tirer comme ça, tant sa pudeur semblait naturelle, il reculait son sexe dans une ombre mystérieuse. C'est-à-dire, Frédéric ne peut pas imaginer Madame Arnoux autrement que vêtue. Vêtue, c'est-à-dire habillée. Donc, il n'y a pas chez lui de fantasme érotique, de fantasme sexuel avec Madame Arnoux. Elle reste Madame Arnoux, justement avec Madame, hein, quelque chose qui est avec le mari. Il n'y a pas de discussion sur cela. Donc, comment un jeune homme qui est amoureux d'une femme mariée peut envisager quoi que ce soit s'il n'a pas de fantasme érotique ou sexuel ? Hein, il reste dans le respect du mari et il devient une sorte de troubadour qui chante sous la fenêtre et qui n'aura jamais aucun succès. On arrivera à cette notion de bêtise en bas de la page. Un homme comme lui se laisse abattre, quelle sottise. Passe encore dans la jeunesse, mais plus tard, c'est perdre son temps. Tu me gâtes, mon Frédéric, je redemande l'ancien garçon, toujours du même. Il me plaisait. Voyons, fume une pipe, animal, secoue-toi un peu, tu me désoles. Et en haut de la page 99, « Ah, vieux troubadour, etc., etc., tu n'as qu'à venir à l'Alhambra. » Et ici, Flaubert met lui-même une parenthèse pour expliquer ce que c'est que l'Alhambra, et il fait bien, parce que l'endroit n'a pas duré très très longtemps, et donc on a pas mal de difficultés à savoir exactement comment ça se passait, et beaucoup d'études utilisent cette scène de Flaubert pour essayer de comprendre comment on s'amusait sur les Champs-Élysées à cette époque. Bon, il y a eu d'autres romanciers qui ont utilisé, qui ont parlé de l'Alhambra, mais ça reste difficile à connaître. Alors, ce sera donc le début de cette scène de l'Alhambra. Je m'arrêterai ici momentanément pour faire le point sur cette notion de sottise, d'animal, de bête et de bêtise. En bas de la page 98, donc, c'est Dussardier qui dit à son ami Frédéric « Voyons, fume une pipe, animal, secoue-toi un peu, tu me désoles. » Alors, fume une pipe, ça veut dire, ben voilà, prends une pipe et fume. Hein, et le fait de fumer, ça va te détendre et tu vas penser à autre chose. Animal. Alors, animal, ici, est une apostrophe, hein, précisément, c'est-à-dire, on appelle quelqu'un d'un certain nom, on l'appelle animal. Appeler quelqu'un animal, c'est tout à fait banal, on peut encore le faire aujourd'hui. Alors, espèce d'animal, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Hein, je peux dire ça à mes amis, et ce n'est pas une insulte. C'est même assez banal, c'est même assez gentil, hein, assez amical. De la même façon, on peut dire de soi-même « Oh, qu'est-ce que je suis bête, j'ai oublié mes clés. » Donc, je suis bête. Bête et animal renvoient évidemment à la même chose, c'est-à-dire au règne des animaux qui nous entourent et dont nous sommes nous-mêmes, êtres humains, membres. Hein, nous faisons partie de l'ensemble des animaux. Mais avec cette différence qui nous fait sortir hein, du groupe des animaux que nous sommes ou nous nous considérons comme intelligents. Donc l'animal intelligent, c'est l'homme, il sort du groupe des animaux, et lorsqu'il ne se montre pas intelligent, eh bien justement, il redevient un animal, une bête, et il est donc capable de bêtises. Donc ça, c'est l'histoire et l'origine du mot. La bête, la bêtise, c'est celui qui se comporte comme un animal qui n'a pas, momentanément ou de façon permanente, qui n'a pas l'intelligence normale des êtres humains, normale ou moyenne. Hein, parmi les êtres humains, il y en a des plus ou moins intelligents, et c'est d'ailleurs une chose très très difficile à mesurer. Les soi-disant tests d'intelligence ne sont peut-être que des tests relatifs au travail ou à telle ou telle activité. Mais l'intelligence elle-même est beaucoup plus difficile à mesurer. Alors, dans cette aventure du mot que je vous ai proposé aujourd'hui ici, j'ai d'abord considéré le mot « bête » au singulier, le mot « bête » au pluriel, puis le mot « bêtise ». Vous n'en avez qu'un pour deux ? Pardon. Tenez. Ça va tout le monde, hein ? Ouais. Donc je vais considérer voilà, « bête »,« bête » et « bêtise ». Et puis évidemment, en dessous, on pourrait considérer d'autres mots, hein. Alors il y a de nombreux équivalents, synonymes ou quasi-synonymes. Donc j'ai mis quelques imbéciles, et puis en dessous encore sot, sottise, ce sont des choses tout à fait courantes et tout à fait banales. Alors, parmi ces occurrences, vous voyez que beaucoup sont avec le point d'exclamation. Alors c'est une exclamation. Soit une exclamation à propos de soi, soi-même, « Ah, que je suis bête !» ou bien une exclamation à propos de quelque chose, « Ah, c'est bête, c'est aujourd'hui, je peux pas. » Soit à propos de quelqu'un, et c'est une... alors ça devient une apostrophe, « Ah, sale bête !» en disant à quelqu'un, c'est même pas méchant. Ensuite, on peut dire à quelqu'un « ne sois pas bête, hein, voilà, réveille-toi, fais ceci, fais cela, ne sois pas bête, c'est possible. » Alors, on va le voir chez Flaubert, de temps en temps, donc comme je viens de le dire, et puis de temps en temps, associé à la notion de groupe, donc comme je disais tout à l'heure. Par exemple, à la page 72, c'est-à-dire l'occurrence numéro 2, la multitude voit bête. Alors, on n'a même pas besoin de regarder la page dans le texte, hein, mais l'idée c'est la multitude voit bête. Donc lorsqu'il y a un groupe de gens, une multitude de personnes, leur vision ou leur intelligence hein, n'est pas au-dessus de celle de la bête. La multitude voit bête. La multitude, le groupe, la masse, se comporte comme une bête. Donc, sans intelligence. À la page 72, ça se trouve dans le dernier paragraphe en bas de la page, à la troisième ligne. Laissez-moi tranquille, la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Les uns voient noir, d'autres bleus, la multitude voit bête. C'est bien sûr le peintre Pellerin qui s'emporte contre la multitude. Donc, des occurrences de bête comme un animal, bête comme un dindon, c'est le numéro 3. On peut le rapprocher du numéro 9, bête comme un chou. Bête comme un chou, alors un chou n'est pas un animal, hein, mais c'est tout de même très simple, un chou. C'est pas compliqué, un chou. Hein, c'est un chou, voilà, c'est simple. Donc, bête comme un chou. Ou même dans le deuxième paragraphe, hein, bête comme cornichon. Donc là, c'est bête au pluriel. bête comme cornichon. Bon, les cornichons, vous savez ce que c'est. Hein. Ça aussi, c'est bête. Ou encore, il y avait un autre. C'était comme une giberne. Où est-ce que c'est? Ah oui, c'est le numéro 7, alors, de la deuxième partie. Hein, c'est bête au pluriel, numéro 7. Plus bête que leur giberne. Plus bête que leur giberne. Alors, la giberne, à l'origine, c'est une boîte militaire que les militaires portent pour mettre leurs cartouches. Bon, donc c'est tout à fait banal et bête. Donc, voilà. La bêtise, pour comparer quelqu'un avec un animal, avec un végétal, avec un objet, comme ceci. Dans la première partie, donc bête au singulier, le numéro 13. Est-ce bête les convenances? Alors ici, on est à la page 311 du texte. Page 311, ça se trouve en haut de la page 311, à la quatrième ligne. Il s'agit de la petite Louise, hein, la fille de Monsieur Rock, qui grandit évidemment. Elle voudrait monter à cheval, mais maintenant, on lui est interdit. Le vicaire prétend que c'est inconvenant pour une jeune fille. Est-ce bête les convenances? Donc, inconvenant, convenance, hein, évidemment, c'est partie de la même famille. Et lorsqu'une fille est une enfant, considérée comme une enfant, à la campagne, elle peut monter à cheval, il n'y a pas de problème, mais dès qu'elle devient une jeune fille, alors elle rentre dans une autre catégorie de population qui devient mondaine, hein, qui devient sociale, et donc entourée de tout le mystère féminin, donc on ne monte pas à cheval. Voilà. Ou alors il faudra attendre des Amazones, hein, les Amazones qui montent sur le côté, pour ne pas écarter les jambes sur le cheval, évidemment, ce qui est tout à fait monstrueux. Mais ce qui est, en retour, la marque de la gêne et de la pudeur de la société. Hein, je ne sais pas si dans tous les pays, il était interdit aux jeunes femmes, aux femmes, de monter à cheval normalement. Et pourquoi il est devenu interdit dans des pays, particulièrement les pays catholiques, bien sûr, où le corps de la femme est une sorte de sanctuaire qu'il faut à tout prix défendre de toute image, même visible par l'homme. Ce qui est une marque de la gêne extrême des hommes au sujet du corps de la femme. Bon, est-ce bête les convenances? Alors, c'est un peu paradoxal, cette expression, parce que les convenances, c'est précisément un ensemble de règles sociales qui définissent le groupe des êtres humains en tant que société et donc différent des animaux qui vivent sans convenance dans l'état de nature. Donc, est-ce bête les convenances, une sorte de retournement, et je crois que Flaubert s'amuse un petit peu avec ce genre d'expression. Cornichon, par lâcheté, par bêtise. Dans la troisième série, c'est-à-dire le mot bêtise, le numéro 2, à la page 95, donc là c'était dans nos pages d'aujourd'hui, voilà, ici on a deux expressions côte à côte, sans savoir pourquoi, par lâcheté, par bêtise, dans l'espérance confuse d'un événement quelconque favorable à son amour. Ici, la lâcheté et la bêtise se trouvent associées, et donc la bêtise devient un équivalent de la lâcheté, ce qui normalement n'est pas tout à fait la même chose. C'est à la page 95, un peu après le milieu de la page, vers la fin de ce paragraphe, il y a un tiret, et il resta là jusqu'à minuit, sans savoir pourquoi, par lâcheté, par bêtise, dans l'espérance, etc. Donc le sens du mot bêtise peut s'étendre, hein, à beaucoup de choses, soit du côté des conventions même, ou bien de la de l'absence d'action, de la lâcheté, du refus de faire ou de participer. Enfin, dernière citation pour ce mot, le numéro 10 de bêtise, ce qui prouve que la bêtise est féconde. Ça, c'est une pensée tout à fait flaubertienne. Hein. Alors, c'est à la page 517, donc on approche dangereusement de la fin du livre. Voilà, c'est un passage dont on a déjà parlé, hein, lorsque les deux amis se retrouvent très 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 longtemps après toutes ces aventures. Et en haut de la page 517, à la fin du paragraphe, on a expliqué justement ce que c'était cette histoire de tête de veau. J'y reviendrai un autre jour, hein, à la tête de veau, une sorte de blague que Flaubert déplace dans son roman. Et on arrive à la fin de cette explication. Après Thermidor, des terroristes organisèrent une confrérie, toute pareille, ce qui prouve que la bêtise est féconde. Donc la bêtise, c'est le fait de faire des choses idiotes, hein, comme utiliser une tête de veau pour se moquer d'un homme. La bêtise est féconde. Alors, féconde, c'est bien sûr la fécondité, c'est-à-dire ce qui produit des fruits. La bêtise est quelque chose qui produit beaucoup de fruits. Alors, là aussi, c'est une pensée un peu, comment on pourrait dire, nihiliste, presque. Parce que si la bêtise produit beaucoup de fruits, comment est-ce que le monde peut progresser, évoluer, s'améliorer? Normalement, c'est l'intelligence qui doit produire des fruits. Si l'intelligence produit des fruits, alors le monde se développe et c'est le progrès et c'est merveilleux. C'est peut-être l'idée des Lumières au sens du XVIIIe siècle. Mais comme vous le savez, Flaubert est assez pessimiste et même parfois plus que pessimiste, nihiliste, c'est-à-dire niant la possibilité d'un développement, d'un bonheur, d'un état de paix, etc. Et la bêtise est féconde montre bien que derrière, disons, ces personnages, hein, peut-être Flaubert a du mal à croire à un progrès continu de l'humanité. Bon, c'est aujourd'hui aussi, hein, ça semble un peu difficile, hein, d'y croire, malgré le développement industriel, moderne, et tout ce dont nous pouvons jouir nous-mêmes aujourd'hui. Ici, nous savons que partout dans le monde, il y a d'énormes et monstrueux problèmes. Voilà. Donc, nihilisme vient du latin nihil, hein, qui veut dire rien, et donc la négation de quelque chose qui existe, ou de la possibilité de construire véritablement une société qui fonctionne bien. Alors les nihilistes ont des discours d'abord pessimistes, et puis franchement pour détruire, hein, des choses de la société aussi, ou bien simplement ne rien faire, des penseurs qui ne voient pas de solution dans la situation du monde. Il y en a, je crois, à toutes les époques, hein, des nihilistes, et dans tous les pays. C'était pour bêtise. Bon, voilà, si vous prenez un peu de temps, vous verrez d'autres occurrences. Et puis, dans les pages que nous étudions aujourd'hui, à la fin, tout en bas, je vous ai mis « sot » et « sottise » et l'expression « voir les sots réussir ». Qui est à la page 89. On peut s'y arrêter encore une minute. À la page 89, c'est tout en bas de la page 89, dans le dernier petit paragraphe. Rien n'est humiliant comme de voir les sots réussir dans les entreprises où l'on échoue. Frédéric, vexé, répondit qu'il s'en moquait. Alors bien sûr, il s'agissait d'examen de droit que Frédéric devait passer et qu'il a tout à fait raté parce qu'il a mal préparé, bien sûr. Et Deslauriers essaye un petit peu de faire sortir Frédéric de ce regret, de cette situation, mais je crois que Frédéric s'en moque tout à fait à ce moment-là. Il ne s'intéresse pas du tout à ses études. Mais cette expression, donc, « rien n'est humiliant comme de voir les sots réussir dans les entreprises où l'on échoue ». Alors ici, le « on » représente évidemment soi-même. Là où soi-même a échoué, il est regrettable, il est humiliant de voir que d'autres réussissent et que ces autres, précisément, sont des imbéciles, des gens idiots. Alors, en réalité, on ne sait pas si ces autres sont idiots. C'est une sorte de manifestation de colère, de n'avoir pas réussi, et on accuse les autres d'être idiots. Donc c'est quand même assez injuste. Voilà, donc pour cette aventure du mot bêtise, si vous vérifiez quelques occurrences et si vous avez quelques questions, on pourra le voir la semaine prochaine. Alors le troisième passage que je vous avais proposé aujourd'hui, c'était aux pages 129 à 133. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous savez que Frédéric a réussi donc quand même ses examens. Il est retourné chez sa mère et sa mère lui a expliqué un petit peu la situation, qu'on n'est pas du tout riche et qu'il va falloir t'installer ici, là, et faire un travail dans la région. Bon, Frédéric se laisse convaincre. Il n'a pas beaucoup de choix d'ailleurs pour ça. Et il accepte. Cette situation va durer pendant un certain temps, en réalité plus de 2 ans. Donc là, on voit très bien ce qu'on appelle la vitesse romanesque. Vraiment étonnant. On peut passer des dizaines de pages sur quelques jours ou quelques semaines de la vie de Frédéric, et puis en quelques lignes, on saute 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même parfois on tourne la page et puis 16 ans sont passés. Ça, Balzac nous avait déjà fait le coup. Il y a quelques livres de Balzac où 15 ans passèrent entre deux chapitres. Bon, c'est assez courant finalement dans le roman. Donc on a accéléré beaucoup et puis on doit finir encore plus vite. Et on arrive à cette période où, disons, Frédéric s'est presque adapté à sa situation de province. Il a pris un petit boulot chez un notaire, donc évidemment avec ses diplômes de droit, et puis il commence à réfléchir, par exemple, avec cette petite voisine, la fille de Monsieur Rock, est-ce qu'on pourrait pas envisager un avenir? C'était aussi une chose courante. À ce moment-là, Madame Moreau a organisé, à la page 129, la visite de l'oncle du Havre. Évidemment, pour Madame Moreau, c'est tout à fait dans le but de faire hériter Frédéric. Mais cette visite ne se passe pas très bien en apparence. Donc, il a été médiocrement aimable, en haut de la page, malgré tout le soin qu'on a pris de lui. Il a critiqué beaucoup Nogent, comparativement avec Le Havre, qui évidemment est une beaucoup plus grande ville. Et donc, il s'est exclamé « Quel pauvre commerce chez vous !» Et puis, il voit bien qu'on n'est pas très riche chez les Moreaux de Nogent, et il dit que lui, il avait amassé 27 000 livres de rente. Ah ben c'est très bien, comme ça on peut savoir exactement le montant de sa fortune. Enfin, il partit au bout de la semaine. Bon, et en disant « Je suis toujours bien aise », c'est-à-dire « Je suis content de vous savoir dans une bonne position ». Donc « Je suis content de voir que vous n'avez besoin de rien ». Et Madame Arnoux traduit, Madame Arnoux, non, Madame Moreau traduit, tu n'auras rien. C'est-à-dire, ce que vient de dire l'oncle, ça veut dire que, bon, vous n'avez besoin de rien, donc je ne vous laisserai rien. C'est tout. Et pour Frédéric, au milieu de la page à peu près, Madame Moreau regrette un peu, parce que c'était peut-être un peu trop insistant pour l'héritage, il faut être très prudent avec ces vieux messieurs comme ça. Et pour Frédéric, eh bien, il revoit sa mère comme il y avait 5 ans. C'est peut-être Flaubert, hein, plutôt, qui veut nous montrer que 5 ans ont passé. Façon de dire que là, page 129, 5 ans ont passé et le roman n'a pas beaucoup avancé, malheureusement. Cette coïncidence, hein, qu'il appelle, et donc lui rappelle Madame Arnoux. Ah oui, Madame Arnoux, ah ben oui, cette image, qui est très loin maintenant. Hein. Ah oui, oui, elle est à Paris, puis ça, voilà, ça s'éloigne tranquillement, je dirais, hein, ça s'éloigne tranquillement, la possibilité de faire sa vie en province. Bon, et d'ailleurs, le père Roch vient même lui proposer de l'accompagner chez D'Ambreuse, et il refuse, un dernier mot de la page 129, il refusa. Incroyable, hein. Il s'est habitué à sa vie. Comme on dit à la 2, 4, 6, 8, 9e ligne de la page 130, il s'accoutumait à la province. Il s'accoutumait. Et alors, c'est dans cette accoutumance, cette habitude qu'il a maintenant, ça y est, de la province. Madame Arnoux, à la fin du paragraphe, était pour lui comme une morte dont il s'étonnait de ne pas connaître le tombeau. Vous voyez, il est presque guéri, hein, comme un malade qui aurait guéri, comme une morte. Et arrive le paragraphe suivant, que vous connaissez bien. Un jour, le 12 septembre, vers 9h, etc., une lettre. Et on a déjà vu ça la première semaine, hein, quand j'ai parlé d'héritage. Alors bien sûr, c'est le contraire, hein, d'un seul coup. Il se revoit partir à Paris et il va tout abandonner, y compris les conseils de sa mère, évidemment, qui lui proposait de s'installer sérieusement à Troyes, en Champagne. Bon, c'est trop fort.
Je peux vous rapporter votre...
Oui, 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 on finit. Merci bien. Voilà. Et pourquoi faire aller à Paris, en haut de la page 132, le dernier mot aujourd'hui ? Rien. Voilà, donc la semaine prochaine, vous avez les pages et nous sauterons directement dans la vie de Frédéric et je ferai quelques portraits de personnages pour essayer de rattacher, hein, cette vie plusieurs années après avec ces épisodes d'aujourd'hui. Merci, à la semaine prochaine.